Olimpiano, Titania 4.0, chapitre 6, rencontre au sommet. Charles Blandion était très confortablement assis dans le salon du restaurant La Petite Monnaie. C'était avec le Rocher de Cancale l'un de ses favoris. L'établissement était situé au troisième étage d'un immeuble haussmannien, dont les fenêtres traditionnelles avaient cédé la place à une baie vitrée, au design étudié. À travers les grandes vitres à l'impeccable transparence, la Seine coulait paisiblement, avec ses péniches à énergie solaire, ses drones fluviaux et ses amours oubliés. Où qu'il portât les yeux, Charles Blandion ne voyait qu'une image de la pérennité. C'était cela le vrai secret de la bourgeoisie, cette absence de prise au temps. Un maître d'hôtel ganté de blanc accomplissait depuis 4 siècles les mêmes rites. La Seine coulait, tranquille. Les lourds tapis, faits main, étouffaient le moindre son. Les clients, de génération en génération, adoptaient le même ton de voix feutré, la même élégance. Rien de fâcheux ne pouvait décidément se passer en ce lieu. Il y avait trop de cuir, trop de cristal, trop de boiseries rares, trop de porcelaine fine. Tout était trop ancien pour laisser place au désordre. Blandion consulta son Hervé dernier cri. Irina Margovic était en retard, comme le sont toujours les femmes de sa caste. Il ne s'en inquiétait pas, confiant dans le fait qu'elle allait probablement arriver dans les prochaines minutes. Sur l'authentique Steinway, la valse de Chopin était interprétée par une nouvelle sorte de musibou que Blandion venait justement de commercialiser. En l'occurrence, une paire de mains volantes, autonomes, probablement guidées par celle d'un pianiste sans le sou à l'autre bout de la planète. Ses mains cybernétiques étaient féminines, chargées de lourdes bagues, avec des ongles peints. Au niveau du poignet sectionné, l'extrémité avait été conçue pour ressembler au bout d'un gant vide. Blandion, l'œil critique, jaugeait l'effet produit. Cela fonctionnait, très bien, certes, mais n'était-ce pas une faute de goût dans un lieu comme celui-ci? Un pianiste humain eût été plus agréable à regarder. Quoique, ses mains fantomatiques n'étaient pas dénuées d'un certain charme étrange. « Charles !» dit Irina avec amusement. « Vous êtes plongé dans la contemplation de votre petit dernier ?»«
Contemplation, le mot est peut-être un peu excessif, » répliqua-t-il en se levant, en vrai gentleman, afin de ne pas être assis alors qu'elle était debout.
Presque aussitôt, et sans pourtant avoir eu l'air de les surveiller, le maître d'hôtel s'approcha d'eux. Il s'agissait d'un homme d'âge mûr, multiracial. Sous sa chevelure afro-blonde, ses yeux bleus étaient bridés, il portait une moustache digne d'un lord anglais du XIXe siècle, et sa peau offrait du front jusqu'à ses mains un très subtil dégradé allant de la pâleur la plus transparente à la teinte cannelle la plus cuivrée.
« Mes hommages, Madame Morgovic, » salua-t-il.
Il inclina la tête avec respect, puis s'adressa à Charles. « Monsieur Blandion, souhaitez-vous un service humain ou un service cybernétique ?» Blandion s'apprêtait à répondre lorsqu'Irina le coupa. « Un servibo fera l'affaire, » dit-elle.
« Fort bien, madame. Je vous invite en ce cas à gagner votre table. J'espère qu'il s'agit de la table numéro 1.
Bien sûr, monsieur Blandion. » Avec un air de componction, le maître d'hôtel prit le manteau de fourrure d'Irina qui répandit un parfum musqué. Elle s'avança aux côtés de Charles Blandion, et nul n'eût deviné qu'il s'agissait là d'un octogénaire et d'une sexagénaire, car ils arboraient tous deux la grâce insolente d'une éternelle jeunesse. « C'est bien là le secret de la bourgeoisie, » se répéta Blandion. Pas de prise au temps. C'est amusant de s'entendre appeler monsieur et madame, plaisanta Irina. Le mot liberton est tellement terne. Leur table, dissimulée au reste de la salle par une rangée d'arbustes en pot, donnait directement sur la Seine, et ils admirèrent un instant la vue. Ainsi le voulait le code social qu'ils respectaient tous deux avec une exactitude scrupuleuse. Ils admireraient la vue, puis ils choisiraient leur repas, ensuite ils échangeraient quelques réflexions générales sur la vie. Enfin seulement, ils en viendraient au fait. Aucun contrat, aucune alliance, aucune déclaration de guerre ne se signait jamais autrement. Irina paraissait absorbée par la lecture du menu, avec ce sérieux affecté qui était la marque de son style. Charles l'observait à la dérobée. Ses longs cheveux lisses ne semblaient pas prendre ni perdre 1 centimètre. Son hâle, la qualité supérieure de ses bijoux discrets, la ligne ferme de son visage, étaient les points cardinaux entre lesquels seuls quelques détails variaient parfois très légèrement. La couleur crème de son corsage aurait pu être vieux rose ou beige tendre, tout au plus.
Ses chaussures, seule concession qu'elle fit jamais à la mode, étaient toujours différentes, changeaient de forme et de couleur, mais sans jamais rien perdre de leur élégance haut de gamme. Comment cette femme si parfaitement identique à elle-même avait-elle pu faire endosser à sa propre fille tant d'identités changeantes? Cela restait, et resterait, un mystère, et même une faute impardonnable. Cette fantaisie rejaillissait sur eux tous à présent.
Nuée de canards en robe d'or, traversée d'un arc en peau d'orange confite, lut-elle d'un air rêveur.
Fit poliment Blandion.
Et pourquoi pas une souris d'agneau d'Orient dans son écrin de nougat et de poire de terre épicée? Ce menu est un vrai poème, mais je vais opter pour le foie de vierge cuit à cœur et sa couronne d'asperges fines et de marguerites glacées, sauce Saturne.
De la viande humaine? Dit Charles, surpris.
Ces mots contrastaient violemment, désagréablement, sembla-t-il à Irina, avec les accords délicats de Chopin.
Je n'en ai jamais goûté. Je suppose qu'on ne peut trouver meilleur endroit pour l'accommoder.
L'air dégoûté de Charles n'échappa pas à Irina, qui tordit sa bouche en une moue capricieuse.
« Et que diriez-vous, pour commencer, d'une entrée ludo-gastronomique » demanda-t-elle pour changer de sujet.
« Un jeu de loi des saveurs, par exemple ?»
Charles acquiesça. Ils relevèrent tous deux la tête et le cervibeau s'approcha aussitôt de la table, dans un mouvement fluide et complètement silencieux. Il s'agissait d'un robot androïde vêtu d'une livrée stricte, avec une tête un peu longue et des gestes extraordinairement précis.
« Puis-je me permettre de vous demander si vous avez choisi ?» récita le cervibeau d'une voix d'acteur shakespearien.
« Absolument, nous prendrons un jeu de loi pour commencer, » dit Charles. « Puis un canard pour moi. »«
Et pour vous, très cher ?»
Irina hésita.
« Un foie de vierge, » finit-elle par dire.
« Excellent choix, si je peux me permettre un commentaire, » dit le cervibeau.
« Désirez-vous boire quelque chose pour accompagner votre entrée ? Un peu de vin de champagne ?»«
Oui, » répondit Charles Blandion. « Mais du synthétique, si vous en avez, je ne supporte plus le vrai vin. »
Le cervibeau se tourna vers Irina.
« Ce sera très bien, oui. »
Après un hochement de tête poli et un demi-tour, le cervibeau s'éloigna.
« Vous n'êtes pas du genre à renoncer à votre caprice parce que j'ai pris un air dégoûté, » observa Charles d'un air amusé.
« Non, en effet, » dit-elle en souriant.
« Que voulez-vous, je me fais vieux au-dedans. Les nouveautés parfois me déconcertent. J'ai beau ne pas changer en apparence, les choses changent, elles, et il viendra bien un moment où mon monde à moi aura disparu.
« Mais vous lui survivrez, » dit résolument Irina.
« Encore et toujours. »
« N'éprouvez-vous pas aussi ce vieillissement intérieur ?»
La question était intime, presque déplacée. Irina, cependant, ne pouvait pas se permettre de répondre à Charles Blandion sur le ton sec qu'elle avait l'habitude d'adopter avec la plupart de ses interlocuteurs. C'était l'un des hommes les plus riches d'Europe. Sa fortune dépassait largement la sienne.
« Puis-je vous rappeler sans impertinence que j'ai 20 ans de moins que vous, » dit-elle, « ce qui ne suffit pas à faire de vous une jeune femme. » Elle reçut l'affront sans sourciller, et le cervibeau leur apporta le jeu de loi. Sur un grand plateau tactile, muni d'une imprimante 3D intégrée, un parcours sinueux avait été figuré. Sur chaque case s'agitait une petite image.
« Lequel d'entre vous voudra commencer ?» demanda le cervibeau.
« Les dames d'abord, bien sûr. »«
Mais non, » objecta Irina.
« Honneur aux cheveux blancs. »
Blandion plissa les yeux et, sans relever la pique, saisit le dé qui lui tendait le robot.
« Que gagne-t-on si l'on remporte la partie ?»
Le cervibeau, qui avait identifié la phrase comme une question relevant de ses compétences, se mit à débiter.
« Une bouchée particulièrement savoureuse, appelée Nirvana des papilles. »
« De quoi est-elle composée ?»«
Il s'agit d'une recette secrète du chef lui-même, spécialement conçue pour l'imprimante 3D. Et maintenant, si vous voulez bien me permettre, je vais procéder à une analyse très rapide de votre sang afin d'ajuster les réglages et de m'assurer que votre repas ne présente pour vous aucune contre-indication médicale. »
Charles et Irina prêtèrent leurs doigts, nonchalamment, à la micro-prise de sang qui leur était faite, puis le cervibeau s'éloigna et Charles lança le dé qui tomba sur le 4. Aussitôt, la quatrième case du plateau se mit en surbrillance, et l'imprimante 3D ultra-rapide confectionna, couche après couche, un amuse-bouche feuilleté qui répandit un agréable fumet.
Blandion mordit dans sa bouchée, à belles dents.
« Voyez-vous, Irina, si nous avions véritablement l'âge que nous paraissons avoir, j'essaierais probablement de vous séduire, et quelque chose me dit que vous auriez envie que je le fasse. » Irina avait lancé son dé, et son amuse-bouche triangulaire prenait de plus en plus d'épaisseur sous les efforts saccadés de l'imprimante. « Vous avez gagné, dit-elle. Je n'en ai pas envie, et vous non plus, parce que nous avons passé l'âge de nous laisser emporter par des sottises. Parce que nous sommes vieux, Irina. Si vous voulez. » Charles avait enregistré une petite victoire et se sentait d'humeur plus affable. La conversation se poursuivit sans heurts entre les bulles du champagne synthétique, les mélodies mélancoliques de Chopin et les petits rires que leur arrachaient la forme et le goût toujours surprenant de leurs amuse-bouches. Puis le servibot débarrassa leurs assiettes avec des gestes obséquieux, et Irina soupira en plantant son regard dans celui de Blandion. « Pourquoi ce déjeuner, Charles? Nous ne sommes pas amis, et nous n'avons pas d'affaires en cours. » Les yeux de Charles devinrent perçants. Irina ne s'y était pas trompée un seul instant. Ils étaient entre prédateurs et connaissaient la valeur toute relative de leur amabilité réciproque. « J'ai quelques amis au conseil d'administration de Morgan, dit-il d'une voix posée. Je sais que vous vous étiez engagé à nettoyer votre désordre. » Elle le regardait scintiller, un sourire supérieur flottant sur ses lèvres minces. « Vous voulez parler de ma fille, sans doute. » « En effet. J'ai nettoyé mon désordre, comme vous dites. Ma fille est désormais présentable à tous les galas et sur tous les plateaux du réseau. Elle m'accompagne dans mes déplacements, docile ambassadrice de la famille. J'ai sauvé l'image de la corporation. » Irina faisait référence au subterfuge qu'elle avait utilisé quelques mois auparavant. Pour éviter le scandale, elle avait produit sur le plateau de Stéphane Locard une jeune fille ressemblant trait pour trait à Daphné. Cette inconnue avait joué à la perfection le rôle de la bonne enfant soumise et repentante. Titania avait été publiquement accusée d'imposture et l'honneur était désormais sauf. « Vous avez limité les dégâts avec l'ingéniosité que tout le monde vous reconnaît, Irina, mais non, vous n'avez pas nettoyé votre désordre. Votre fille, la vraie, l'autre, cette Titania, continue à nous nuire, et vous le savez pertinemment, avec son prétendu collectif debout dans le temps. » Irina éclata de rire. « Voyons, Charles, tout cela est ridicule. Ces vidéos amateurs, ces mutes serpents, ce sont des enfantillages. » Je n'ai guère apprécié que l'on vienne me narguer en pleine fête d'anniversaire, Irina, et vos associés de Morgan Corporation ont encore moins été sensibles aux aveux publics du docteur Fabre. Nos amis de Hillness m'ont confié qu'ils s'inquiétaient à nouveau de l'affaire du Panacor. L'officier chargé d'étouffer l'affaire a été inquiété. Si la responsabilité d'Hillness dans la mise en circulation du virus éclate à nouveau, il risque une nouvelle baisse de la cotation en bourse. Irina savait tout cela, mieux que personne, mais elle écarquilla les yeux comme si elle venait de l'apprendre. Qu'un client du contrat spécial finisse par se retourner contre nous, que les activistes étatistes nous attaquent, cela n'est-il pas dans l'ordre des choses? Je ne vois pas en quoi ma responsabilité est engagée. C'est un point de vue fort intéressant, Irina, mais je crains qu'il ne soit pas partagé par l'ensemble de vos associés. Si j'ai bien compris, il vous accuse plutôt d'avoir créé cette situation délicate par imprudence, sans rien faire pour y remédier. C'est vous qui avez été négligente dans la signature du contrat spécial et qui avez laissé des dissensions familiales interférer avec les affaires. Blandion marqua un temps. Ils vont vous débarquer, Irina, purement et simplement. Vous allez perdre des millions. Irina Morgovic, la tête haute, balaya la salle du regard. « Faut-il que j'envoie Régenville ? Votre brute ? Mon avocat. Maître Régenville est diplômé de la Sorbonne. Il parle couramment six langues. Ce qui fait de lui une brute cultivée. Oui, vous devriez y songer. »« Soit, dit-elle, je lui demanderai de régler ça rapidement. » Charles l'observa. Si elle était inquiète, elle le cachait bien. Cette femme paraissait si sûre d'elle qu'elle en devenait presque impénétrable. Il ouvrait la bouche pour ajouter quelque chose quand il se ravisa. Le servibot, avec une expression ravie et gourmande sur son visage de silicone, apportait la suite. L'assiette de Charles, comme cela se faisait depuis quelque temps, était en relief. Les sculptures culinaires s'étageaient comme un flanc de montagne. Celle d'Irina, très classique, était ronde. La portion de foie, d'un brun riche, formait le cœur d'une superbe fleur aux pétales blancs. La sauce Saturne, rouge, semblait une éclaboussure de sang sur un bouquet de mariage. « Bon appétit, ma chère !» Il commença à découper un morceau de son canard, puis suspendit son mouvement. « Mais expliquerez-vous pourquoi vous en êtes arrivé là, avec Daphné ?» La question avait été posée sur un ton plus intime. « Cette question fait-elle partie de votre mandat diplomatique ou vous intéresse-t-elle à titre personnel ?»«
À titre personnel, bien sûr. »
Irina goûta une asperge et émit un gloussement d'aise. « Que voulez-vous savoir ?»«
Eh bien, nous vous avons tous connus avec cette délicieuse enfant, si fraîche dans ses réparties, si profonde dans ce monde superficiel où elle régnait. Nous n'avons jamais posé de questions sur son père, bien entendu. »
« Il n'y en a pas. J'ai sélectionné les meilleurs gènes, et je l'ai faite seule. »«
Superbe cas de parthénogenèse, » commenta Charles.
« Mais que s'est-il passé après, à l'adolescence ?»«
Oh, rien que de très commun. Daphné est devenue très difficile, très ingrate, dans tous les sens du terme. »«
Vous vous êtes lassée de votre jouet. »
Irina leva un de ses sourcils parfaitement dessinés.
« C'est une situation que vous connaissez bien, je crois. »
« Jamais avec mes enfants biologiques, » dit-il avec lenteur. « Elle est donc partie ?»«
Oui, sans laisser d'adresse. Je l'ai fait rechercher par la police, mais sans succès. Il semble qu'elle ait alors basculé dans la spirale de la construction personnelle. »«
Vous l'avez fait rechercher activement ?»«
Eh bien oui, au début, et puis la vie a repris ses droits. J'ai fait mon deuil de cette petite. Sa trajectoire et la mienne étaient parallèles, puis elles se sont disjointes. Il n'y avait pas de quoi en faire une histoire. J'avais bien d'autres chats à fouetter. »
« Je vois. »
Charles versa en haut de son assiette, d'un petit saucier en porcelaine de Saxe, une sauce dorée qui se mit à couler lentement, comme une lave paresseuse, sur le petit paysage de viande et d'oranges confites.
« Et pour le contrat spécial ?»«
J'ignorais totalement au départ qu'il s'agissait de Daphné. Elle s'est présentée sous son pseudonyme et elle a été parfaitement méconnaissable.
Mais vous l'avez su tout de même, à un moment donné. »
« Oui. » Les contrats spéciaux font l'objet d'une enquête particulière. Quand j'ai compris qu'il s'agissait d'elle, j'ai été abasourdi, pensez-vous. Mais il était trop tard. Cela représentait une somme considérable, et le client qui l'avait acheté, un de ses courtisans, ne voulait pas entendre parler d'une substitution. Il la voulait elle. C'était pour elle et pour elle seulement qu'il avait signé le contrat, et la clause de résiliation était exorbitante.
« Alors vous avez laissé couler, » dit-il en regardant la sauce.
« Oui. » « Que pouvais-je faire d'autre ?
Vous ne vous êtes jamais dit « il s'agit de ma fille ».
Personne ne l'aurait jamais appris si elle n'avait pas eu l'idée saugrenue de toute cette mise en scène. Tout cela devait se passer de manière feutrée, entre les quatre murs aseptisés d'une clinique, sans douleur, avec son consentement. Daphné avait disparu depuis longtemps. Il n'était pas si difficile de rendre sa disparition définitive. »
Charles engouffra une bouchée de canard, dont la sauce relevait le goût de manière exquise. Tout en laissant fondre le morceau dans sa bouche, il observa Irina. Avec un geste très élégant, elle entamait enfin le morceau de foie. Charles s'attendait à ce qu'elle en coupe d'abord un tout petit bout, mais elle n'eut pas cette délicatesse, et trancha au contraire un large morceau qu'elle mit dans sa bouche sans la moindre hésitation.
« Vous êtes fascinante, » dit-il.
« Vous ne me demandez pas quel goût ça a ?»
« J'ai trop peur de votre réponse. »
Elle continua à mastiquer, impassible. Il finit par lui demander « Quel goût cela a-t-il ?» Avec une certaine malice dans les yeux, elle lui sourit.
« Vous le savez déjà, Charles, nous mangeons nos concitoyens tous les jours. C'est ce qui nous permet de déjeuner dans un lieu comme celui-ci. Ce foie de vierge n'est pas plus amer que la plupart de nos transactions commerciales. Son goût est peut-être un peu fort, mais avec un peu d'art, un peu de sauce, un peu de Chopin, une jolie vue sur la Seine, que ne serions-nous pas capables d'avaler ?